VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui dans l'actualité, au Mali, le Gatia, un groupe armé favorable à Bamako, a pris hier le contrôle de Menaka, une localité du nord du pays, jusqu'alors partiellement contrôlée par la rébellion du MNLA. Les rebelles Touareg ont alors dénoncé une rupture manifeste du cessez-le-feu par le gouvernement, c'est ce qu'ils ont indiqué. Pour faire le point sur la situation, Idriss Fall a joint Al-Husseini Agali, directeur de la radio Ahadar, Koïma.
Hier, à partir de 11h30, on a entendu l'échange de tirs. Donc les gens commencent à avoir l'information qu'il y a Gatia et qu'il est rentré à Menaka. Donc à midi, des gens ont la confirmation que c'est Gatia. Donc 20 minutes après, les Gatia a repris la ville de Menaka. Et MNLA a quitté Menaka et aujourd'hui, Gatia...
Il y a eu des morts dans les affrontements?
Bon, les morts, je ne peux pas les confirmer. Mais je sais que quand quand on attaque, il ne va pas manquer de morts et de blessés. Mais je ne peux pas vous confirmer exactement les nombres de morts et les nombres de blessés.
C'était Al-Husseini Agali, directeur de la radio Ahadar Koïma de Menaka au Mali. En Centrafrique, le gouvernement menace aujourd'hui de radiation. Les policiers de Bangui ont grève depuis le 11 avril pour un meilleur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Un mouvement très suivi qui a forcé les autorités centrafricaines, selon l'AFP, à faire appel aux policiers municipaux, à la gendarmerie et à la police de la force onusienne pour remplacer les grévistes. Direction le Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il ne reculerait pas devant ceux qui tentent de le faire renoncer à briguer un troisième mandat. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui son conseiller en communication à l'AFP. Le président Nkurunziza a reproché aux manifestants de refuser ce qu'il appelle le processus démocratique. « Nous devons aller aux élections », a-t-il dit. « C'est le peuple qui doit trancher ». Et toujours évidemment au Burundi, les adversaires de ce troisième mandat pour le président Nkurunziza promettent de continuer les manifestations en dépit de la répression des forces de l'ordre, de l'arrestation des leaders du mouvement de contestation et des entraves aux activités des médias. Le point avec Jean-Roger Bion.
La radio publique africaine, station la plus écoutée du pays, a perdu son autorisation d'émettre et son signal est coupé. Elle est accusée par les autorités d'incitation au soulèvement. Depuis dimanche, les trois principales radios privées du Burundi ne pouvaient plus émettre en dehors de Bujumbura. Hier matin, Pierre Claver Mbonimpa, patron de la principale organisation de défense des droits de l'homme, a été arrêté. Un mandat d'arrêt a été émis contre Vital Nshimirimana, président du Forum de la société civile. Il est passé dans la clandestinité, mais a promis de poursuivre le mouvement anti-Nkurunziza. Environ 320 personnes ont été arrêtées selon un responsable de la police. Trois personnes ont été tuées dimanche dans des affrontements entre manifestants et policiers. Deux autres personnes ont péri après des descentes nocturnes à Chibitoke, au nord de la capitale burundaise.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé maintient son avance dans le décompte du scrutin présidentiel de la semaine dernière. Après le dépouillement d'environ 25% du vote, le chef de l'État mène avec 69% des voix contre 17,9% pour son rival le plus proche, le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. C'est ce qui ressort des résultats rendus publics aujourd'hui par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Mais selon l'AFP, ces chiffres annoncés jusqu'à présent concernent principalement le nord du pays, le fief traditionnel de la famille Gnassingbé. La CENI n'a pas encore donné de résultats pour la capitale Lomé, le bastion de l'opposition. En RDC, second jour des états généraux de la justice à Kinshasa. Objectif de cette réunion qui va durer jusqu'au 2 mai, permettre aux magistrats, avocats et membres de la société civile de diagnostiquer les maux qui entravent l'accès à la justice dans le pays et proposer des solutions pour lui rendre sa crédibilité. C'est la première fois en 19 ans qu'on organise des états généraux sur ce sujet. Reportage sur l'ouverture des travaux hier avec Eric Abango de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
redorer le blason terni de la justice congolaise, c'est le sens de ces assises dont les dernières ont été organisées en 1996. Le président congolais Joseph Kabila, qui a ouvert ses travaux, a fait un constat. Il reste beaucoup à faire pour crédibiliser la justice congolaise.
En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale.
Le président du syndicat national des magistrats du Congo estime que ces états généraux doivent permettre de faire un vrai diagnostic sur les maux qui rongent la justice congolaise. Sambaï Mutenda Lukusa.
Et il faut aussi que les membres de cette assemblée soient francs et que tout le monde comprenne que nous avons aujourd'hui un combat de quitte ou double, où la justice marche ou elle ne marche pas.
De son côté, maître Franck Moulenda, avocat au barreau de Kinshasa, ses assises doivent permettre d'instaurer une justice distributive en République démocratique du Congo.
La justice, c'est le dernier rempart de la société. C'est la base, le fondement du contrat social. Il ne faut pas qu'il y ait une justice pour les riches et une justice pour les pauvres.
Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch souhaite que des recommandations sur la lutte contre l'impunité soient adoptées par les participants à ces travaux. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Retour sur la lutte contre Boko Haram au Niger, plus de 72 heures après l'attaque meurtrière des islamistes nigérians contre l'armée du Niger à Karamga, une île du lac Tchad. Toujours pas de bilan précis de l'incident et silence du côté de Niamey. Félix Yepassi Zembrou nous en dit plus.
L'armée nigérienne a perdu 48 soldats et 36 se sont portés disparus selon une source sécuritaire tchadienne. Un élu de la région de Difa dans l'extrême est du Niger fait état de 80 soldats tués et une trentaine de disparus. Une autre source proche de l'armée parle de 100 morts et 17 disparus. Un agent humanitaire déclare qu'il y a eu énormément de pertes à Karamga, une île du lac Tchad où étaient positionnés 120 à 150 soldats nigériens. Les combattants de Boko Haram ont pris d'assaut l'île le samedi à l'aube et sont restés jusqu'à la mi-journée. Il a fallu l'intervention des hélicoptères tchadiens stationnés à Difa pour les déloger. Cette île a déjà été attaquée le 20 février. Le bilan officiel était 7 soldats et 15 islamistes tués.
Direction maintenant les États-Unis, la police de Baltimore, le grand port de l'État du Maryland, à une quarantaine de kilomètres de Washington, fait état du déploiement de la garde nationale dans plusieurs quartiers de la ville qui ont été le théâtre de violences et de pillages hier soir. Après les obsèques d'un jeune noir blessé à la suite de son arrestation par des policiers au début du mois et décédé une semaine après à l'hôpital. Un couvre-feu nocturne entre en vigueur ce soir. Pourquoi cet accès de colère de la minorité africaine-américaine? Un début de réponse avec Omar Cissé. Il est malien et il habite Baltimore.
Il y a une grande majorité de noirs américains qui vivent dans une sorte de gangrène. Donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Naturellement, nous avons beaucoup de gens qui se sont donnés à la drogue et beaucoup qui sont en probation, et la pauvreté. Donc, tu mets tout ça ensemble avec la manière dont ils sont coincés, je dirais, par les policiers. Donc ça peut créer un truc comme ça.
Omar Cissé, un Malien de Baltimore qui répondait aux questions de Bagassi Koura. Tout dernier bilan publié aujourd'hui par les autorités népalaises, le tremblement de terre a fait plus de 4300 morts et environ 8000 blessés, des chiffres qui pourraient augmenter alors que les secouristes fouillent les décombres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.